Les Racines du Ciel, une émission de Lily Envar, réalisée par Clotilde Pivin et préparée par Thierry Beauchamp. Aujourd'hui, nous sommes chez Magda Hollander-Lafont qui nous a ouvert les portes de sa maison avec cet esprit d'accueil, cette hospitalité qui la caractérise pour ce nouveau volet de la série des Grands Témoins. Chère Magda, si vous me permettez cette familiarité, vous étiez venue nous rendre visite en 2012 aux Racines du Ciel à l'occasion de la sortie de votre livre, paru chez Albin Michel, « Quatre petits bouts de pain, des ténèbres à la joie ». Et dans ce livre, d'ailleurs, vous racontiez comment vous avez survécu en fait à l'enfer d'Auschwitz, mais encore plus, et peut-être encore plus important que cela, vous racontez comment vous avez été animé, y compris dans ce temps des camps, par une espérance en la bonté humaine, malgré tout et contre tout. Et depuis ce jour-là, en fait, vous êtes resté pour moi comme véritablement comme une étoile brillante dans le ciel parfois trop noir des jours. Ce qui m'importe beaucoup, c'est évidemment ce que vous faites aujourd'hui, ce que vous représentez aujourd'hui. On parlera évidemment des circonstances particulières aujourd'hui en France, mais ce qui m'importe, bien sûr, c'est ce qu'il y a d'aujourd'hui, mais ce que vous êtes aujourd'hui, c'est aussi le fruit de ce que vous avez vécu dans le passé. Alors, est-ce que vous pouvez nous brosser cette enfance qui fut la vôtre, cette brisure fondamentale qui vous a fait passer de l'enfance au monde adulte, et comment donc, comment vous voyez cette enfance d'avant les camps, et puis après on traversera aussi cette expérience des camps pour venir très vite, je vous le promets, à la vie d'aujourd'hui, parce qu'au fond c'est ça qui compte. Magda Hollander-Lafont.
D'abord, tout ce que vous dites là, ça me touche beaucoup, mais vous savez, je me sens très très petite. J'annonce chaque fois que quand je dis « je », c'est qu'il y a des milliers de nous derrière moi. Je ne peux pas parler en leur nom, mais je le porte dans ma mémoire. De mon enfance jusque maintenant, vous disiez, que pouvais-je dire? J'ai une enfance, quand j'étais petite, très joyeuse. La maison était toujours très grande, ouverte, et j'en garde une mémoire très, très chaleureuse. Je crois qu'enfant, nous absorbons les parents, et nous absorbons les réalités des moments. Et ça reste dans notre peau, au-delà des événements. J'en suis sûre de ça, parce qu'il y a des tas de choses qui montent en moi. Je me dis, mais c'est pas possible, je l'ai déjà vécu ce moment-là. C'est vrai que l'enfance est extrêmement importante. Nous portons en nous cette enfance. Se sentir aimé et se sentir reconnu nous donne, sans que nous ayons conscience à cette époque, à ce moment-là, plus de confiance en nous-mêmes. Parce que finalement, ça nous permet de ne pas trop douter de nous-mêmes. Vous vous disiez que la famille est importante. C'est vrai. Tous inscrits dans notre famille, tous inscrits en nous. Les comportements des parents, le regard qu'ils portent sur les enfants, la manière dont on leur parle, dans la manière dont on les regarde, je crois que nous avons dans notre peau. Nous avons dans notre peau. Et je crois que ces réalités-là m'ont certainement beaucoup aidé à survivre dans les camps. Et même aussi aujourd'hui, à vivre de cette réalité-là, peut-être autrement.
Oui, d'ailleurs, ici, dans votre appartement, j'ai vu votre fille, une de vos petites filles, et c'est vrai que c'est quelque chose qui émane très naturellement de cette relation que vous avez, c'est-à-dire on sent que vous les avez aimés et que à leur tour, ils sont tellement remplis d'amour qu'ils sont
qu'elles sont, en tout cas, ce sont des filles que j'ai vues, qu'elles sont à leur tour, parce qu'elles l'ont reçue, capables d'irradier de cette tendresse, de cette bonté que vous leur avez transmise dans l'enfance. Et pour vous, c'est quand même le fondement de l'éducation. Et vous militez presque pour ça, pour cette idée qu'il faut aimer les enfants pour qu'ensuite ce soit des adultes aimants.
Mais que veut dire aimer ? Aimer, on aime tout le monde et quelquefois on n'aime personne. Aimer, c'est la réalité. Que personne ne peut aimer l'autre sur ordre. C'est bien de l'intérieur. C'est bien de l'intérieur. Et nous n'aimons pas tout de suite. Et nous avons à reconnaître que nous ne savons pas aimer. Pour moi, aimer, c'est l'apprentissage d'une vie à travers le vécu du quotidien. Et à travers aussi les erreurs du quotidien. Et aussi des remises en question. Parce que le regard de l'autre, la manière dont nous parlons, la manière dont nous les regardons, dans la manière dont nous demandons, pour moi, la demande est une relation. Je demande à quelqu'un qui est en face de moi et il va me répondre. Donc, j'ai quelqu'un en face de moi. Demander, c'est je demande, donc je m'adresse à quelqu'un. Et la réponse de cet quelqu'un va dépendre de ma manière de lui demander. Donc, c'est pour moi extrêmement important la manière dont je demande. Toute relation, pour moi, commence par la demande.
Vous revenez sans cesse sur cette idée que ce qui fait la trame véritable, enfin de l'être humain véritable, ce qui tisse la trame de l'être humain véritable, c'est la bonté.
Certainement, enfant, j'ai dû sentir cette bonté-là. Et j'étais toujours très attentive à cette bonté-là. Et avant de partir au camp, justement, je n'ai plus du tout senti cette bonté. Quand on nous a embarqués, la bonté est disparue. Les personnes avec qui nous vivions nous ont humiliés. Alors, qu'est-ce que la bonté ? Qu'est-ce que la bonté ? Et pour moi, c'était une immense déception. Parce que je croyais que cette bonté était toute naturelle. Et là, j'ai vu que ce n'était pas du tout naturel. Le geste de bonté, je l'ai reçu par des personnes qui n'avaient presque rien. La moitié d'un pain, la moitié d'un don vient des personnes qui n'avaient eux-mêmes presque rien. Ceux qui en avaient beaucoup, peut-être avaient peur de le perdre. Quand j'étais déshydratée, que je n'avais rien, que je devais mourir, eh bien, je n'oublierai jamais de ma vie que quelqu'un, comment elle a eu de l'eau, je ne sais pas comment elle a pu avoir un petit peu d'eau chez elle, et comment elle a pu faire qu'elle mettait entre mes lèvres par petites gouttes, parce qu'elle savait que si elle mettait plus, je pouvais étouffer. Et cette bonté-là, pour moi, c'était là. Gratuité. C'était venu de fond de son cœur. Et souvent, je pense souvent à elle, parce que je n'ai même pas pu remercier. Je n'avais plus la force de remercier. Mais j'ai son regard dans mon regard encore aujourd'hui.
Oui, parce que, alors vous avez parlé de cette soif, du fait de votre expérience des camps. Peut-être rappelons à nos auditeurs que vous faites donc partie de ces plus de 400 000 juifs hongrois qui ont 450 000 juifs hongrois qui ont été déportés en avril 44 vers le camp d'Auschwitz, Birkenau. Et à ce moment-là, c'est vrai, votre vie a totalement basculé. Et ce que vous dites de la bonté, c'est assez extraordinaire parce que quand on vous demande de parler de l'expérience des camps, au fond, la chose dont vous parlez le plus, y compris dans vos livres, vous parlez de la souffrance, bien sûr, vous parlez du mal, vous parlez de cet inouï de la barbarie, que vous avez eu à subir, mais finalement, ce qui fait que vous avez pu l'écrire, que vous avez pu en retrouver la mémoire, que vous pouvez aujourd'hui en témoigner, c'est finalement, et ce qui vous en reste, ce sont ces gestes de bonté. Alors, décrivez-nous aussi quand même cette arrivée dans le camp et cette première phrase qui finalement est une phrase de bonté que quelqu'un vous dit en vous signalant qu'il faut que vous disiez que vous avez 18 ans, Magda Hollander-Lafont.
Nous sommes arrivés à Birkenau avec ma mère et ma sœur et nous avons été accueillis par des nazis bien sûr et leurs chiens et puis des anciens déportés qui ont déchargé les wagons et certains sont circulés au milieu des plus jeunes et c'est extraordinaire mais sans bouger les lèvres parce que je crois qu'ils ont désobéi. Je parle de l'obéissance. Ils ont désobéi en risquant leur vie. En passant devant les jeunes, ils ont dit « Tu as 18 ans, tu as 18 ans. » Et je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. Mais j'ai tellement enregistré ce 18 ans que sans comprendre pourquoi je dois dire 18 ans, je me suis trouvée devant Mengele, dont notre vie dépendait de sa baguette, gauche à droite, que je ne mesurais pas ce que ça voulait dire. Et en face de lui, il m'a demandé en hongrois quel âge j'avais, en hongrois. Il m'a dit, j'ai répondu que j'avais 18 ans et j'ai vu sa baguette aller à droite. Et pour ma mère et ma sœur, ça allait à gauche, sans savoir à l'époque, qu'est-ce que cela signifiait? Parce qu'on nous avait toujours dit que nous allions travailler. Donc moi, je doutais déjà parce que je voyais que comment pouvons-nous travailler dans des conditions physiques dans lesquelles nous étions. Le doute était en moi, mais je ne pouvais pas imaginer ce qui nous attendait. Donc déjà le premier gratuit. Bonté gratuite.
En fait, à ce moment-là, vous avez 16 ans. Vous dites que vous avez 18 ans, mais aviez 16 ans, bien sûr.
J'avais 16 ans, et parce qu'il le savait très bien qu'il fallait avoir au moins 18 ans et être forte pour qu'on puisse nous choisir, parce que tous les Hongrois, tous devaient disparaître, sauf quelques-uns, pour remplacer ceux qui étaient déjà affamés. Donc, notre vie à chacun de nous est en danger parce qu'aucun de nous ne devait survivre. D'ailleurs, il y a très peu de survivants hongrois.
Et vous avez vu d'ailleurs disparaître le reste de votre famille, littéralement sous vos yeux, oui. Magda Hollander-Lafont.
Oui, je n'ai pas vu devant mes yeux, mais ma mère et ma sœur étaient à gauche et... J'ai failli dire à ma mère de prendre la camionnette. Il y avait là-bas des camionnettes avec les croix rouges. Je me dis, mais comme c'est gentil quand même. Vous voyez, qu'on vient chercher les fatigués pour emmener avec une camionnette et croix rouge dessus. Je n'imaginais absolument pas ce que ça signifiait. Et j'ai failli dire à ma mère de le prendre. De le prendre pour... parce qu'elle était fatiguée, ma petite sœur aussi, mais je n'ai pas dit, et que j'ai appris après que toutes ces camionnettes, des petites camionnettes de Croix-Rouge, allaient directement aux chambres à gaz, sans intermédiaire. Vous imaginez l'imagination destructeur, combien aujourd'hui nous avons à mettre notre imagination, cette même imagination au service de l'humanité. Là, c'était fait pour nous détruire le plus tôt possible et le plus vite possible. C'est incroyable. On ne pouvait pas imaginer. Nous ne pouvions pas imaginer ça.
Oui, et d'ailleurs, à nouveau, en préparant cette émission, vous m'aviez dit que, à l'occasion d'un entretien que vous avez eu à faire, vous avez repensé et réfléchi à cette énigme inouïe de ces gens comme Mengele, qui étaient d'une cruauté, d'une brutalité, d'une inhumanité incroyable, et qui en même temps étaient des grands amateurs de musique, extraordinairement émus. Et c'est pour vous un des points les plus énigmatiques du cœur humain, qui vous a été donné, auquel il vous était donné de réfléchir.
C'est vrai que j'ai appris ça, parce que je ne le savais pas au moment même, qu'il paraît que Mengele assistait à tous les départs de tout le monde, parce que sans lui, ça ne pouvait pas se faire. Mais après ça, il écoutait, je crois que c'est le rêve de Schumann, et en pleurant. Vous imaginez qu'après ça, ils allaient faire jouer, parce qu'il y avait un orchestre. Il y avait un orchestre des déportés, et ils allaient se faire jouer le rêve de Schumann. Après tout ça, ça, j'ai jamais pu comprendre ça. D'ailleurs, nous partions aussi, nous revenions aussi avec la musique, mais c'était des musiques de marche. Tout se passait en musique dans les camps. Les départs et les arrivées des camps, ça se faisait en musique.
Oui, et même parfois, vous racontez qu'on vous offrait, si j'ose dire, des concerts qui étaient destinés en réalité à faire périr de chaleur sous le soleil de plomb ceux qui éventuellement assistaient à cette...
Oui, ça c'est sûr. Nous avons à Auschwitz, vous savez, on était, il fait extrêmement chaud, c'était le mois d'août, il faisait extrêmement chaud, et les nazis nous ont fait sortir de notre baraquement. On était des milliers, et ils ont inventé que de nous offrir un concert. Alors ils ont rassemblé des musiciens sur une estrade, déguisés avec des vestes sur leur tenue de prisonnier, et qu'ils jouaient sous un soleil de plomb au mois d'août, je n'oublierai jamais, ils ont joué le concerto de Brahms. Je ne savais pas que c'était le concerto de Brahms, on me l'avait dit. C'était des passages de violon de concerto de Brahms. Et je me suis aperçue que quand le musicien tombait, quand le violon tombait, et que nous aussi nous étions assises, et que nous étions tous couchés par terre, et puis moi aussi j'avais des fourmillements dans la tête, que j'ai pris conscience, cette idée dantesque, que nous étions tous ensemble de mourir sous ce grand soleil de plomb, parce que il fallait que notre mort aille très très vite. Alors chacun inventait comment nous faire mourir le plus vite possible. Et qu'on ne parle plus jamais de nous, et surtout nous, nous ne puissions plus jamais en parler.
France Culture, Les Racines du Ciel, Lélie Onvar.
Plusieurs fois, vous avez dit ça et vous l'écrivez dans votre livre, que l'enjeu, c'était que plus personne ne reste pour parler. Et ce qui vous a fait survivre, Magda Hollander-Lafont, c'est non seulement d'avoir pu vous raccrocher à des petites bontés qui ont été en fait de grands gestes d'amour, en tout cas interprété comme cela par vous, mais aussi l'idée qu'il fallait survivre pour pouvoir le dire un jour.
C'est, pour moi, personnellement, j'étais vraiment révoltée C'était aussi une révolte d'adolescence. Révoltée de cette injustice qu'on nous avait infligée. Et je crois que cette révolte contre l'injustice m'a beaucoup aidée aussi à rester debout. Et je me suis dit, non, c'est pas possible que nous mourions sans... je me disais, je veux pas mourir. Je veux pas mourir. Mais comment ne pas mourir quand la mort vous talonnait à chaque instant? Mais il y avait un... beaucoup de choses qui m'ont empêchée de ne pas mourir. D'abord, j'étais furieuse contre Dieu. J'étais vraiment furieuse. Je crois que je me suis débordée beaucoup sur lui parce que mes frères priaient, imploraient de l'aide et qu'ils n'avaient pas d'aide. Alors je me dis, c'est pas possible qu'on ne puisse prier comme ça et qu'il n'y a rien qui vient pour aider. Pour moi, ça rajoutait à ma révolte. Alors, de quel Dieu il s'agit? De quel Dieu il s'agit? Et j'étais vraiment... Je me dis, aussi, après, je me suis dit que aussi longtemps que nous pouvons nous révolter, c'est que nous sommes vivantes. Quand on ne peut plus se révolter, c'est que nous sommes déjà au seuil de la mort. Donc, et j'étais de tout ça parfaitement inconscient. Tout ce que je vous raconte là aujourd'hui, je n'ai absolument pas mesuré le moment même quand ça m'est arrivé. C'est sorti de moi tout à fait naturellement. Et puis un dimanche après-midi, nous sortions de notre baraquement et puis nous avions en face de nous déjà des personnes, je le sentais bien, avec le regard qu'ils avaient, qu'ils n'allaient pas vivre pour longtemps. La vie était, la mort était inscrite sur leur visage. Et puis il y a une qui a fait des mouvements avec les mains. Et pourquoi moi je suis allée le voir? Il y en a d'autres qui auraient pu y aller. Pourquoi j'ai filé? Et puis quand je suis arrivée auprès d'elle, elle m'a dit, tu es jeune, tu dois vivre. J'étais très saisie de ce qu'elle me disait. Tu dois dire au monde ce qui se passe ici. Tu dois dire ce qui se passe ici pour que ça n'arrive plus jamais au monde. Elle ne m'a pas dit plus jamais aux Juifs. C'est plus jamais au monde que se passe ici. Alors moi, j'étais très saisie en disant, mais je vais dans 5 minutes, je peux ne plus être là. Qu'est-ce qu'elle me raconte? Alors à ce moment-là, elle ouvre ses mains. Je le verrai tout le temps parce que ses mains étaient déjà raidies. C'était toute raide, donc elle avait du mal à ouvrir ses mains. Et dans le creux de ses mains, il y avait 4 petits bouts de pain moisi qu'elle n'a même pas pu manger, parce que vous savez, quand vous êtes déshydraté, vous ne pouvez rien avaler. Alors il m'a dit, mange-le, et vis. Bien sûr, c'était, pour moi, ces 4 étoiles dans le creux des mains, bien sûr que je l'ai mangé. Et puis quand j'ai fini, j'entendrai toujours, elle m'a dit, tu vivras. Alors je suis partie de là en disant, mais elle dit n'importe quoi, mais je pense, je sentais en moi une grande lourdeur de ces paroles. Je dis, mais qu'est-ce qu'elle est en train de me dire? Mais qu'est-ce que je peux faire? Je ne pourrais rien faire, elle est en train de me charger de quelque chose que je ne serai plus là dans quelques instants. Alors j'ai vécu ça très très longtemps, lourdement. Après, je l'ai enfui loin et je ne me suis plus jamais souvenue. Que le jour où Darky Pellepoix, commissaire je crois, en France, on appelle, pour les, c'est lui qui déportait les Juifs de France, qui a dit... il était en Espagne et il a dit qu'à Auschwitz, on n'a gazé que des poux.
Mais c'était dans les années 70, c'est ça?
Oui, c'est ça. Qu'on a gazé que des poux. Alors là, La furie m'a fait. Moi, j'ai dit, ça, c'est pas possible de s'y faire. Si un seul être humain sur Terre est un pot, c'est l'univers est un pot, c'est que nous sommes tous condamnés. Alors, grâce à l'aide autour de moi, parce que je fais partie de l'amitié judéo-chrétienne, et tout le monde, mes amis, m'ont encouragé. Voyez combien nous avons besoin d'une main tendue pour agir. Parce que toute seule, je me sentais, comme aujourd'hui, toute petite. Je me dis, comment moi, une petite fille, là, qu'est-ce que je peux faire? Mais tout le monde m'a encouragé, Magda, tu dois parler. Mais comment? Ça, je me suis longtemps demandé comment. Comment transmettre l'intransmissible de telle manière que je puisse être entendue. Parce que si je vais dire tout ce qui s'est passé, je vais fermer les consciences au lieu de les ouvrir. Alors il m'est venu un moment, parce que j'aime les questions sont importantes. L'homme, nous sommes une question. J'ai élaboré un questionnaire, parce que pour moi, les questions est un appel. Et chacun... Dans une question, vous vous investissez. On ne peut pas répondre à une question sans votre propre investissement intérieur. Et c'est ce qui m'intéressait plutôt les personnes. Et après les questions, les réponses, je vais me rajuster dans mes réponses pour que mes réponses soient bien ajustées, pas plus, pas moins, à ces questions. Et surtout, je suis extrêmement attentive aux visages. Les visages, pour moi, c'est merveilleux. Donc, je regarde les visages de celui à qui je parle. Et puis, je vois s'il y a des doutes. J'essaye humblement de faire la lecture des visages parce que ça me renvoie justement à ma justesse ou ma manque de justesse. Donc,
Mais en fait, à qui étaient destinés ces questionnaires? Quand vous avez commencé, que vous avez eu l'idée, comment l'idée est née et surtout à qui ça s'adressait?
Les questionnaires surtout s'adressaient aux jeunes, parce que c'est les professeurs d'histoire m'ont demandé de venir témoigner dans des classes. Et puis aussi des adultes aussi m'ont demandé. Et ça m'a posé très longtemps un problème. Comment?
Mais ce qui est extraordinaire, c'est que vous avez été tout de suite accueilli. C'est-à-dire cette démarche d'aller à la rencontre, de faire ces questionnaires et d'expliquer au fond ce que ça vous aviez vécu.
Non, j'étais accueillie. On me l'avait demandé, les professeurs d'histoire. J'étais vraiment... Je suis intervenue d'abord... il y avait une colloque des historiens où je suis intervenue. Et les professeurs qui ont été là m'ont invitée tout de suite. C'est à ce moment-là, bien entendu... À cette occasion-là, c'était l'occasion de réfléchir, et j'ai oublié de le dire, c'était l'occasion de réfléchir comment transmettre, bien sûr.
Et donc, alors, ces questionnaires consistaient en quoi? Parce que vous en avez, je crois, vous avez rencontré des centaines et des centaines de jeunes.
J'ai rencontré des milliers. Je crois que j'ai dépassé plus de 50 000. C'est ça. Mais je peux vous dire, les questions étaient... Un juif, c'est qui pour vous? Qu'est-ce que vous avez entendu dire des juifs? Je voulais que tout ça se sorte. Et ce qui est incroyable, c'est qu'ils sont sortis tout ce qu'ils ont entendu, que le juif est un voleur, un tricheur, j'ai tout ça ici, leur réponse qui ne vient pas d'eux, ce qu'ils ont entendu. Et il en reste encore trop. Et j'ai demandé après, qu'en pensez-vous? Alors, ils ont dit que ça vient des qu'on a entendu autour de nous, on le dit, mais nous trouvons que c'est eux, ils ont mis que eux, personnellement, ils n'ont pas d'expérience et qu'ils ne savent pas et qu'on le dit ça en plaisantant. On dit ça en plaisantant. Ce qui était extraordinaire, c'est que j'ai vu des milliers de jeunes, des milliers. Sur ces milliers-là, Lélie, s'ils avaient rencontré 200 personnellement, c'est énorme. Ils ne savent même pas ce que c'est. Ils n'ont jamais rencontré. Ils ont entendu. Donc combien il est important de rencontrer l'autre, d'être ouvert à l'autre, de connaître qu'est-ce qu'un juif, de qu'est-ce que l'autre tout simplement. Que ce soit un juif ou un autre, est-ce que nous la connaissons? Est-ce que nous nous sommes donné la peine de le rencontrer vraiment pour l'autre, pour entendre ce qu'ils sont, ce qu'ils vivent? J'avais 6 ou 7 questions. Quelles sont les questions que vous avez envie de poser à Magda? Alors les questions, c'est extraordinaire, les questions des jeunes. C'est magnifique. Ils ont répondu, bien sûr, à ce qu'ils ont entendu, mais leur question, c'est vraiment vient de leur vie. Maintenant, depuis 60, depuis 80, ça change. Cette fois-ci, les questions, c'est surtout sur Magda, est-ce que tu voulais te suicider après que tu es sortie des camps ou dans les camps? Qu'est-ce que ça dit de nos jeunes d'aujourd'hui? Parce qu'aucune question, quand on pose une question, ce n'est jamais au hasard. C'est parle de nous. Et c'est maintenant, c'est incroyable le nombre de questions sur le suicide. Donc combien nous devons être vigilants pour nos enfants.
Et qu'est-ce que vous leur répondiez quand ils posaient cette question?
Eh bien, je l'ai dit que dans l'écran, je ne voulais jamais me suicider. C'était facile de mourir, de toute façon. Mais ce que je voulais, c'est à la sortie des camps. Quand je voyais plus de visage et que je voyais personne et que c'est pas comme ça que j'ai imaginé la liberté et comme je n'avais personne sur qui compter, j'ai pris conscience que je ne pouvais compter sur moi-même, j'avais 17 ans. Alors je me suis dit non, ça, cette vie-là, je n'ai plus envie de vivre. Et puis j'ai trouvé une trousse de pharmacie que les Américains ont perdue. Et puis je l'ai toujours gardée. Et puis j'ai vu qu'il y avait du poison dedans. Alors je suis partie avec ça. Mais c'est ce qui était le plus extraordinaire, c'est qu'en y allant tranquillement, eh bien à un carrefour, j'allais vers les bois. Il y a quelqu'un qui est venu vers moi avec un magnifique sourire. Elle est venue, je ne comprenais pas du tout ce qu'elle me disait parce que je ne connaissais pas le français du tout. Elle venait vers moi et elle me tendait les mains. Je me suis dit, mais quel beau sourire! Oh! Quand on a un joli sourire comme ça, c'est que je me suis dit, alors ça vaut le coup de faire demi-tour. Vaut le coup de vivre. C'était magnifique ce sourire, je n'oublie jamais ce sourire. Et puis même une main tendue. Et j'ai fait demi-tour. Et plus jamais je n'ai eu envie de mourir parce que j'aime la vie. Mais voyez que dans chaque carrefour, il y a quelque chose qui est venu pour me sauver. Dans les camps aussi, si j'ai survécu, c'est qu'il m'est venu de l'intérieur, de tas de réalités intérieures, j'ai entendu. Et il fallait que j'obéisse tout ce qui venait de l'intérieur.
Et comment vous-même aussi, personnellement, vous avez réagi à ces réponses haineuses, finalement, qui venaient d'enfants jeunes? Il faut être très fort pour pouvoir lire cela, c'est-à-dire lire des choses aussi, quand on a été soi-même dans les camps, lire des choses aussi violentes, voilà, de dire voilà pourquoi ils ont survécu, ils ont déjà trop nombreux et tout ça. Comment vous, Magda Hollander-Lafont, vous avez pu traverser ça? Parce que ça doit être extraordinairement difficile, il faut une force de caractère inouïe.
Eh bien, je vous dirais que j'étais très contente. Parce qu'à partir du moment où quelqu'un arrive à dire ce qu'ils ont entendu, ou ce à qui ils croient, s'il ne le dit pas, on ne peut pas changer. La parole libère. Et par le fait même que ces enfants m'ont dit ça, je me dis, tout est possible. Alors là, j'étais en train, il me donnait, j'ai répondu bien sûr qu'il était un juif, j'ai répondu à leurs questions et j'ai dit aussi, allez, renseignez-vous, si vous rencontrez, interrogez-les, essayez d'être plus des autres pour connaître davantage. Et je lui ai dit, voyez, vous posez ces questions, ce sont des questions que vous avez entendues? Est-ce que vous avez expérimenté ça? non Magda. Je dis, mais oui, alors si, expérimentez-le. Expérimentez-le, allez-y les voir, rencontrez-les, et vous verrez si ça correspond à ce que vous dites là. C'est, il ne faut pas répéter inconditionnellement ce que les autres disent. Il faut vérifier tout ce que les autres disent. Personne sur Terre ne détient la vérité. Vous êtes là libre de vous renseigner. Et si on disait ça de vous, comment réagirez-vous ?
Quand nous avons parlé des événements qui ont secoué la France le 13 novembre, c'est aussi cette réaction-là que vous avez eue, de dire, au fond, ceux qui en sont arrivés là, c'est aussi un peu parce que nous n'avons pas su faire en sorte qu'ils n'en viennent pas là. Ce qui est évidemment une parole très courageuse et assez peu audible aujourd'hui, Magda Hollander-Lafont.
Oh. Vous savez, la famille est extrêmement importante, je le sais.
Oui, je précise que vous avez une formation de psychologue et d'éducatrice pour enfants.
Oui. Et nous sommes très importants. La manière dont nous leur parlons, la manière dont nous les regardons, combien ils ont besoin d'être reconnus. D'ailleurs, nous tous, est-ce que nous ne cherchons pas la reconnaissance de nous-mêmes ? Nous faisons tout pour être reconnus, vus et aimés. Et combien ce regard de reconnaissance peut nous redonner la vie. Et vraiment, c'est important de changer notre regard sur l'autre, mais aussi sur nous-mêmes. Parce que nous avons en nous toutes ces réalités-là. Nous sommes révélateurs, chacun de nous, de ces très belles réalités que chacun porte en soi. Il y a en chacun de nous ce meilleur et le pire. Et c'est à nous à œuvrer, donner sens. Donner sens, vraiment le mot donner sens pour moi est important. Donner sens à notre souffrance, donner sens à notre vie, donner sens à la réalité que nous vivons. Elle n'est pas toujours facile, mais à partir du moment où nous pouvons lui donner sens, que l'événement n'arrive pas au hasard, nous sommes responsables des événements qui nous arrivent. Quelle est cette part de responsabilité qui m'appartient ? De le regarder et à partir de cela, œuvrer, de nous améliorer, de nous remettre, pas améliorer, je n'aime pas ce mot, de nous remettre en question. D'ailleurs, Lélie, si je suis en face de vous, c'est grâce à mes nombreuses remises en question que j'ai faites. Et je bénis chaque fois, vraiment, je suis heureux chaque fois quand j'ai la conscience d'une erreur que je commets. Parce que j'ai prise sur cette erreur-là. J'ai le choix plutôt, soit ne pas le regarder, soit alors lui donner sens. Vraiment. Et cette conscience-là, je crois que nous pouvons en avoir chacun de nous. Mais d'où vient que nous les balayons de notre conscience ? Nous ne voulons pas le voir. Nous voulons vivre dans une forme de fausse illusion. Moi, si je suis vivante aujourd'hui, c'est grâce aussi que j'ai reconnu dans les camps que j'allais mourir, que c'était là pour mourir. Et à partir de cette reconnaissance de la réalité, vous ne pouvez imaginer l'énergie qui peut monter en nous.
Oui, et c'est aussi lié à ce qu'on ressent dans tout ce que vous écrivez, dans tout ce que vous dites, et votre façon même d'être au monde quand on est en votre présence. C'est que c'est même au-delà de ce que vous venez de dire, c'est l'idée que finalement, il y a en vous cette énergie de garder l'étincelle humaine, qui n'est autre, au fond, oh, que l'étincelle divine.
La vie est sacrée. Oh, la vie est sacrée. Quand les jeunes m'ont demandé, Magda, est-ce que tu auras pendu les nazis, les grands nazis de Nuremberg ? Je leur ai répondu, mes enfants, je n'aurais pendu aucun. Je n'ai droit sur la vie de personne. Je les aurais enfermés, tous, en espérant qu'ils prendront conscience de la réalité de ce qu'ils ont fait. Mais sur la vie de quelqu'un, nous n'avons aucune personne. La vie est sacrée et nous avons en chacun de nous ce meilleur et le pire.
Oui, et d'ailleurs, vous dites, dans votre livre, vous expliquez bien comment l'entreprise nazie était aussi une entreprise de déshumanisation. Et que la chose la plus terrible, c'était de voir que les conditions dans lesquelles étaient mises les victimes finissaient par les déshumaniser. Et ça aussi, vous vous êtes accroché à l'idée que, comme le disait d'ailleurs une des victimes, enfin une personne qui avait perdu sa femme pendant les événements du 13 novembre, j'ai beaucoup aimé la formule, il disait « Vous n'aurez pas ma haine, parce qu'au fond, vous n'avez jamais cédé à cela. Parce que vous pensez que si vous laissez entrer la haine dans votre cœur, alors c'est l'amour qui est perdu, c'est la vie qui est perdue, c'est votre propre, c'est vous-même qui êtes perdu, et eux qui ont gagné. »
Mais nous haïssons tous. Il y a la haine en nous. Mais à partir du moment où je reconnais que j'ai cette haine en moi, que je peux le canaliser. Si je fais semblant de ne pas l'avoir, il va toujours être là. C'est pour ça que quand les jeunes sortaient d'eux-mêmes, tout ce qu'il y avait, c'était très content. Il y a une reconnaissance en nous-mêmes, et sans se culpabiliser, de reconnaître, je n'aime pas, je ne peux pas aimer, donc je hais cette réalité-là, je hais cette autre réalité, et c'est à partir de cette reconnaissance de ce qui est vrai que je peux donner sens, et je peux les canaliser.
Et en même temps, pour vous, le sens ultime, c'est quand même le mot d'amour, alors à nouveau qui est tellement galvaudé, mais vous dites, voilà, vraiment, cette vie, elle doit être chérie, et en même temps, nous devons la nourrir par l'amour que nous portons à tous ceux à qui nous pouvons, évidemment, le porter.
Commençons par nous-mêmes, parce que nous aimons si peu. Et si je ne commence pas par moi-même, comment pourrais-je aimer l'autre ? Nous étions créés pour aimer, nous étions créés pour aimer, et il y a en nous toutes ces réalités-là. Mais c'est vraiment incroyable, c'est ça qui est très important.
Parler d'une lettre qu'une petite fille vous a écrite. Voilà, je pense que vous vouliez nous partager avec nous.
Tiens, c'est une petite. C'est une toute petite de 8 ans. Je suis intervenue. Et puis, après mon intervention, elle est venue vers moi et elle m'a demandé, Magda, j'ai un tas de questions à te poser. Mais là, je n'ai pas pu te le poser. Est-ce que je peux te les poser ? J'ai dit, ma puce, installe-toi, écris-le-moi, parce que j'aime bien que tu m'écrives tes questions, et nous allons le regarder ensemble. Bien, j'ai été émerveillée des questions de cet enfant de 8 ans. Elle m'a dit, qu'est-ce qui permet de survivre dans un camp ? 8 ans. Où trouver la force de tenir? Pourquoi l'homme est-il capable de faire cela à un autre homme? Et la question ici, vous allez voir, comment le corps humain peut-il résister aussi longtemps à autant de souffrances? Pourquoi on est solidaire dans un camp et pourquoi on est égoïste dans un camp?
En plus,
c'est un enfant de 8 ans, et regardez l'écriture.
Incroyable. Alors, Magda Hollander-Lafont, pourquoi on est égoïste dans un camp et pourquoi on est solidaire dans un camp? Peut-être que c'est aussi quelque chose qui peut nous permettre de leçon aujourd'hui, une leçon de vie.
Absolument.
Qu'est-ce qui fait que nous sommes égoïstes? Et qu'est-ce qui fait que nous pouvons cesser de l'être?
Je crois que, j'aime pas le mot égoïste, mais nous sommes fermés sur nous-mêmes. C'est très moral pour moi. C'est parce que nous avons peur. La peur nous talonne à chaque instant. La peur et la culpabilité nous ferment intérieurement. Et cette fermeture-là n'a plus d'horizon. Et à partir du moment où vous reconnaissez votre peur, parce que nous avons tous peur, vous n'allez pas me dire que vous n'avez pas peur, moi aussi, j'ai peur. Si vous reconnaissez votre peur et vous essayez de le nommer, cette peur, eh bien, il y a quelqu'un en face de cette peur. Ça veut dire que vous n'êtes pas submergé par la peur, il y a une réalité en face de cette peur. À partir de là, cette peur, vous pouvez donner sens. Et ça devient que vous retrouvez en vous-même vie. Sinon, la peur vous envahit et à partir de là, vous ne devenez... aliéné à cette peur. Et vous êtes dépourvu de tout. De toute réaction, de toute réalité, donc c'est la mort. Et c'est ce que j'appelle la survie.
Alors maintenant, Magda Hollander-Lafont, vous avez, si je calcule bien, 88 ans. Vous avez donc vécu cette vie avec une intensité qui est quand même rare, que peu de gens ont eu l'occasion d'expérimenter, et c'est peut-être tant mieux qu'il y en ait le moins possible, évidemment, parce que vous avez traversé quand même de très grandes souffrances. Mais cette vie qui vous anime, on la voit dans vos yeux, dans votre présence, qui émane une chaleur incroyable. Néanmoins, comment vous pensez la mort? Que pensez-vous de la mort? J'espère que vous vivrez plus de 100 ans, comme on a prévu, bien sûr, générations-là vont
donc,
vivre.
Je vivrai aussi longtemps que la vie. La mort, vous me dites. Eh bien, vous voyez, je... Consciemment, je n'ai vraiment pas peur. Je n'ai pas peur. Je me dis... J'ai essayé humblement de faire ce que j'ai pu avec mes humbles moyens. Donc, je continuerai une autre vie. Mais ce dont j'ai peur, c'est de souffrir, comme tout le monde. Donc, vous voyez, il y a là-dedans la peur aussi. Mais je pense qu'à l'arrivée là, j'essaierai de faire ce que je peux. En tout cas, je voudrais jusqu'à la fin de ma vie devenir un apprenti d'aimer. Nous sommes un apprenti d'aimer toute notre vie. L'autre pour lui-même et moi pour moi-même, pas pour quelqu'un que je voulais être.
Est-ce que ce serait la devise en fait de votre vie et celle que vous auriez à nous proposer? Être toujours des apprentis d'aimer.
Des apprentis. On aime. Qu'est-ce que ça veut dire? L'amour pour moi a une dimension spirituelle. Et on n'a pas le droit de banaliser. Mais aimer, c'est plus difficile parce que c'est réel. Je suis en face de quelqu'un là. Et vraiment, est-ce que j'accueille l'autre avec ses hauts et les bas? Est-ce que j'accueille l'autre avec son désir à lui et pas que son désir soit le mien? Est-ce que j'accueille l'autre pour lui-même ou que j'invite cet autre à être lui-même? Ce qu'il est dans le cœur de lui-même. L'être humain magnifique, vous savez. Une fois que vous consentez à devenir tout simplement vous-même, eh bien, je me dis, bon, nous avons des limites, j'ai des limites. Et je me dis, bon, je peux aller jusque-là aujourd'hui. Je dis toujours aujourd'hui. Aujourd'hui, bon, eh bien peut-être demain je pourrai plus loin. Mais il y a toujours un chemin.
Et je crois que vous vouliez, pour terminer cette émission, nous lire un texte de votre plume.
Oui, j'aime la langue, j'aime les mots.
C'est évident en vous lisant.
Je l'aime, j'aime les mots. Je crois que c'est parce que j'ai oublié ma langue maternelle et que je ne parle plus, je n'arrive plus à parler, que j'aime le français. Et que je sais, quand je discute ou que je parle avec quelqu'un, je sens qu'il y a beaucoup d'erreurs que je fais. Mais je me dis tant pis.
Oui. Tant non, pis. C'est tellement beau que même s'il y a de temps en temps une erreur, c'est tant mieux.
Tant pis. Alors, je vais passer ça. Je vais essayer de dire ce que je ressens aujourd'hui. Aujourd'hui, 70 ans après la Shoah, le témoignage des derniers survivants dont je fais partie est écouté, peut-être entendu. Nous avons osé exprimer l'incommunicable. Le passé ne peut être effacé. Il m'a permis, par son enseignement, d'aller vers la vie, source de création, de recréation jamais finie. Aujourd'hui, nous participons en témoignant au devenir d'un monde plus humain, plus juste. Nous essayons d'œuvrer là où nous sommes pour faire advenir la paix en nous d'abord et autour de nous. Il nous est confié de ressusciter Dieu, comme disait Eti Ilsoum, et d'appeler en l'homme son humanité. Hitler a perdu et la vie triomphe au-delà du mal. Je ne me sens plus victime, mais témoin de la Shoah. Nous essayons humblement, mais fermement, d'arroser les graines que la vie a semées dans nos cœurs. Il faut s'aimer pour semer juste. C'est toujours un commencement, un pas à pas vers la paix. Notre vie a un sens supérieur qui nous dépasse. Et j'ai foi que chaque homme, chaque femme peuvent être un témoin de vie pour notre temps. Demain dépend de chacun d'eux.
Merci infiniment, vraiment, Magda Hollander-Lafont, pour ce témoignage. Pour cet accueil, toujours, que vous réservez à tout le monde, en réalité. Et je dirais que je resterai silencieuse après ce que vous venez de lire. C'était Les Racines du Ciel, une émission de Lily Envar. Cette émission est podcastable pendant un an. Et vous pourrez la réécouter sur notre site pendant 1000 jours. Je vous laisse avec la rédaction de France Culture pour le journal. Et nous nous retrouvons, quant à nous, la semaine prochaine. En attendant, je vous souhaite un excellent dimanche à tous. Thank you.